Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Pas de dames cette semaine, mais une émission quand même. Parce que sur la planète football, le ballon ne s'arrête jamais de tourner. Parfois pas très rond, faut être honnête. Mais il roule toujours quelque part. En Espagne, notamment ce week-end, où le Barça débutait sa Liga 2020-2021. Et ça s'est plutôt bien goupillé. Succès 4-0, Messi a semblé moins droupi que ces derniers jours. Fati a régalé. Ronald Koeman a sans doute avancé. Et Griezmann stagné. S'il bat ça revit pour l'heure, c'est sans lui. Koeman, Pays-Bas, du coup, c'est qui est là? Bah, Sherif Guémour, bien sûr, hein, Ronald Koeman, Pays-Bas, bon, on associe, forcément. Sherif Guémour, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Vous avez travaillé votre Koeman?
Koeman, tu vois?
Voilà pourquoi on lui a dit.
C'est quand il était oui, jeune, oui, oui. Son surnom c'était Ronald.
Donald. Une Liga où Suarez a changé d'équipe, mais pas de rythme. 20 minutes de jeu avec les Colchoneros pour le copain de Messi. 2 buts, une passe décisive, victoire 6-1 de l'Atlético et beaucoup de promesses pour Diego Simeone et sa bande. C'est moins tranchant au Real qui, de l'avis général, peut s'estimer vraiment heureux de ramener 3 points de chez le leader, le Betis Séville. Réal piétinant qui ne se plaindra pas de la VAR, plus bienveillante à son égard qu'avec d'autres. D'accord avec ça, mon cher Naïm Magnol, qu'on a entendu il y a quelques secondes?
Le Real il est souvent copain avec la VAR, hein, de toute façon. Donc,
quelques mois que ça dure.
Oui, mais Benzema et Ramos aussi, ça fait quelques mois que ça dure, donc il faut en parler. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour Naïm. Alors après la Ligue 1, ça sonne pareil, mais c'est un peu comme le whisky et le Canada Dry, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas le même bonheur à regarder. Ennui de rigueur ce week-end majoritairement, comme souvent, notamment à Marseille samedi, où l'OM a arraché un très heureux nul face à Metz, pareil à Lorient hier, où Lyon n'a pas montré grand-chose de convaincant pour ramener un point. À 6 jours de l'Olympico, OL-OM, franchement, il y a de quoi s'inquiéter pour ces deux équipes. Au fond, le jeu proche du néant, Marseille n'avance plus depuis sa victoire au Parc. Lyon fait un drôle de demi-finaliste de Ligue des Champions avec des joueurs clés dont on ne sait même pas s'ils seront encore lyonnais dans 8 jours. Habib Bey, j'ai bon?
Oui, vous avez bon. Et en plus, vous avez rappelé tous les problèmes que rencontrent ces équipes-là. Ils ont peut-être des circonstances atténuantes, mais il va falloir se réveiller un peu quand même. En Ligue 1, il va falloir produire autre chose parce qu'il n'y a pas que l'OM et il n'y a pas que l'OL. Et c'est tristounet. C'est tristounet de voir une Ligue 1 qui a du mal à démarrer et surtout qui est encore dans cet aspect de conserver les choses. Moi, j'aime bien quand les gens vont chercher leur destin. Et c'est ce que fait Rennes en ce moment, par exemple.
Bah moi, j'aime bien quand je suis d'accord avec Habib. Enfin, quand il est d'accord avec moi. Bonjour, mon cher Habib.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour terminer, coup de tonnerre sur la Bundesliga où les adversaires du Bayern se prennent à rêver. Munich fatigué et balayé à Hoffenheim. 4-1 hier, première défaite en 2020, après 23 succès de rang, notamment. Mais pas l'impression qu'il faille vraiment s'inquiéter. On va voir. Allez, Alice Ménard a passé sa journée avec Pierre-Olivier Guérin. C'est maintenant que leur travail doit payer.
La passada de l'Anglais, que és boníssima, a l'interior de l'àrea, per Alba cap enrere, per Ansu, la rematada... Gol! Gol d'Ansu Fati, Barça 1, Villarreal 0! Coutinho a la frontal de l'àrea, Coutinho amb Ansu, vinga, que ha de fer el segon, Ansu encara, el xut... Gol!
Dale, lío!
Minut 35, xuta Messi... Gol! Història del petitó de Lionel Messi. Recompta la centrada a l'interior de l'àrea per Busquets. Toca la pilota al defensa del Villarreal i gol.
Oh!
Gol del Barça. Barça 4, Villarreal 0.
Les buts du Barça donc en version originale catalane, hein, s'il vous plaît. Un succès 4-0 au Camp Nou face à Villarreal, bien scotché au fond de l'eau sur ce coup-là, le sous-marin d'Unai Emery. Ce Barça, messieurs, vous est-il plu? Allez, shérif, on ouvre le bal.
Relativement, oui, parce que la victoire est là. On parlera pas trop de ce qu'il y avait en face, Villarreal qui a été en grande difficulté. J'ai l'impression qu'on est en train de tenter des choses dans une nouvelle formule 4-2-3-1 qui rompt un peu avec le 4-3-3 habituel de la tradition du Barça. Après, il y a des choses à, il y a des choses à voir. Donc, par exemple, comme Messi en faux neuf, Griezmann à droite. Tactiquement, il y a des choses à repréciser.
Naïm,
je t'ai pas coupé, hein. T'as vu, j'ai rien à dire. Non, parce que l'histoire du 4-3-3, Coman qui rompt avec le 4-3-3, ça fait quand même quelques temps qu'on a plus le 4-3-3. En fait, c'était déjà le cas sous Valverde et sous Setién, premièrement. Est-ce qu'il m'a plu? Oui, parce que le dernier match du Barça, c'est le 8-2 contre le Bayern. Donc on peut difficilement faire pire. L'année dernière, il a été moribond, pas bon. Là, au moins sur une mi-temps, la première, on a vu du jeu, on a vu des courses, on a vu du pressing. Le côté gauche, j'ai bien aimé. Alba, Ansu Fati, c'était pas mal. Les entrants ont fait du bien. Trincao, Pjanic, pour des garçons qui découvrent et qui ont besoin de se montrer et d'intégrer la rotation. C'est, on a vu pas mal de choses. Je reste plus sceptique sur du long terme. Il y a toujours un pic quand t'as un nouvel entraîneur. Tu veux te montrer, tu veux bien faire, tu veux un petit peu redorer le blason. Puis progressivement, ça s'étiole. Il y aura un test, pas le prochain match contre Vigo, mais contre le FC Séville. Puis surtout en Ligue des Champions qu'on les attend, parce que la Liga, tu sais qu'encore une fois, sortie du Real, sortie de l'Atlético, peut-être de Valence ou du FC Séville, ils vont être à leur main sur toute l'année. Donc c'est pas sur un premier match contre Villarreal qu'on les juge. Mais pour une première, c'est bien.
Habib, il vous reste des trucs à dire?
Ce que dit Naïm est très pertinent sur l'aspect que le système et l'animation, on va dire, avaient déjà été modifiés en quelque sorte, puisqu'on avait même vu un 4-4-2 du côté du Barça. Moi, ce qui m'inquiète plus sur la durée, c'est de savoir si un Sergi Busquets et un De Jong auront assez de capacité à protéger cette défense qui me paraît sur les grands matchs en difficulté. Sergi Roberto à droite, l'anglais piqué, ça a montré ses limites et il faudra beaucoup plus de protection en Ligue des Champions dans les grands matchs. Après, ce qui est encourageant, c'est de voir un Jordi Alba par exemple qui a retrouvé en quelque sorte les jambes qu'il pouvait avoir sur un match comme celui-ci. Un Ansu Fati qu'on a vu marquer avec un style un peu, sans le comparer du tout, mais rappelez-vous d'un Eto'o qui était capable de partir comme ça, un peu côté gauche, avec ses pieds ouverts, ses pieds fermés. C'est intéressant de voir un jeune joueur montrer tout ce talent-là. Même s'il a encore une grande marge avant de pouvoir faire le minimum de ce qu'a fait Samuel Eto'o. Et puis un Messi qui est dans un rôle un petit peu, je dis différent, mais c'est toujours des curiosités qui amènent à se dire, est-ce que ce Barça-là peut continuer à avoir ces performances-là sur la première période où on voit du jeu? Maintenant, il faudra rompre malgré tout avec ce qui a existé avant. Est-ce que le fait de voir Sergio Busquets encore numéro 6 et rompre avec le passé, je suis pas sûr, mais comme on l'a dit, Pjanic peut apporter à cette équipe. Ouais. C'est une petite curiosité que je veux voir, mais je reste malgré tout inquiet de ce qui pourrait se passer en Ligue des Champions avec un tel effectif.
Faut pas oublier quand même que sur la dernière semaine de Mercato, ils ont pas exclu de faire un milieu de terrain. On parlait beaucoup de Wijnaldum. Alors, je sais pas si ce sera lui, si Liverpool le laissera partir, mais faire venir un milieu d'F plus, en plus, parce que oui, Busquets avec là, je suis pas sûr qu'il puisse, mais moi, je crois pas plus que ça à De Jong, mais je l'ai dit depuis l'année dernière, il a des vraies qualités de footballeur, mais à ce poste-là, avec la régularité, l'intensité que ça demande d'être de protéger la défense et d'être le joueur de transition d'une équipe comme le Barça, je suis pas sûr que ce soit lui qui faille. Donc, pour ça que je mets une petite pièce en plus sur Pjanic.
Mais je suis d'accord, je suis d'accord. De Jong en numéro 6, j'y crois pas trop. On va attendre la fin du mercato. Mais comme disait Naïm, c'est plus en Liga qu'on les attend, c'est en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, c'est une équipe qui ne résiste plus à l'impact et qui a pris du retard. Donc, c'est ça qu'on les attend.
Mais si on va rentrer un peu plus dans le détail sur deux trois joueurs, mais si lui a semble-t-il résisté au non-transfert, il a semblé un peu moins droupi. Quand je dis ça, c'est vous avez en tête cette image, ce personnage des dessins animés de Tex Avery, ce chien toujours triste. You know what? I'm happy. C'est vraiment l'image qu'il renvoyait. Est-ce qu'il vous a semblé pour autant épanoui hier?
Non, mais il l'est pas, puisqu'il y a quelques jours, il a fait une déclaration sur sa direction par rapport au transfert de Luis Suarez. Clairement, il le saura si le Barça gagne. Dès qu'on aura un contre-coup éventuel en Ligue des Champions, il sera de nouveau tendu, parce que quand il regarde cette équipe, il se dit en quoi elle a été modifiée.
Bon, elle n'a pas c'était été modifiée. C'était son premier match depuis le 8-2.
Non, mais le problème,
vous parlez de 8-2 en quart de finale de Ligue des Champions.
Non, mais Habib, au bout d'un moment, le problème, c'est pas Messi par rapport aux autres joueurs de l'équipe. Le problème, c'est lui par rapport à lui-même. Ouais. C'est, je veux dire, si lui, il prend pas la mesure comme quoi il est sur le déclin, que tu parlais du jeu d'avant, qui ne peut plus durer, le jeu du Barça, qui était entièrement recentré sur lui. Donc, ça devient une équipe prévisible. C'est quelqu'un qui ne défend pas et qui ne veut pas être remplacé. Donc, au bout d'un moment, faut qu'il se remette aussi en cause. Il reste un super joueur. Il va évidemment encore marquer entre 20 et 25 buts cette saison. C'est pas un problème. Mais
à 33 ans, il va se remettre en cause.
Moi, non, je ne le pense pas.
En même temps, on demande à ces joueurs-là de se remettre en cause. Mais on a dit que Ronaldo avait évolué. Est-ce qu'il s'est remis en cause en quelque sorte? Je suis pas sûr.
Non, non, mais évoluer ou se remettre en cause.
C'est qu'ils évoluent dans leur jeu.
Voilà.
Et là où je suis d'accord avec Chérif, c'est qu'il a cristallisé toutes les intentions. Mais il cristallisait toutes les intentions quand tous les autres autour de lui étaient bons. Sauf que quand vous cristallisez toutes les intentions, mais que les gens autour de vous ne sont pas à un niveau exceptionnel, et là je pense à Busquets par exemple, qui a vraiment été un joueur qui a été sur le déclin et qui est toujours sur le déclin. Est-ce que cette verticalité que va rechercher Coman, parce qu'il faut pas l'oublier, est-ce qu'il va être dans un football de transition, est-ce qu'il va être dans un football de possession? Je pense que le football de possession a montré que depuis quelques années, ça ne passait plus en Ligue des Champions.
Coman avec les Pays-Bas, c'est plus direct.
Donc il faudra de la verticalité. On l'a vu hier avec Jordi Alba.
Ouais.
Mais ça veut dire que les profils de tes joueurs doivent aussi correspondre au style de jeu que tu as. Peut permettre à Messi de s'épanouir? Habib,
peut-être. Une fois de plus, on parle des joueurs qui doivent être autour de Messi. Je suis désolé, ils ont gagné la Ligue des Champions en 2015. Les deux années après, Neymar est resté quand même. C'était encore une bonne équipe, mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Et là aussi, il n'y a aucune évolution de remise en cause de Messi. Les joueurs, ils les avaient en 2016, en 2017. Ça fait 5 ans qu'ils ne gagnent plus la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs, ils étaient là. Busquets était encore là.
Mais t'avais des joueurs plus performants. Et défensivement, ils étaient beaucoup plus performants.
Là, je suis d'accord. Messi, tu sauras. Pour l'instant, on n'a pas réellement d'indication. Le Barça a gagné 4-0. Messi, voilà. Tu sauras s'il s'épanouit quand le Barça sera moins fort, parce que normalement, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Si tu veux prendre 2-3 indications sur ce qu'on a vu hier, moi, je l'ai vu faire des passes en dessous Fatih. Je l'ai vu essayer de combiner avec Coutinho. Je l'ai pas vu beaucoup jouer avec Griezmann. Le vrai épanouissement de Messi, c'est quand il a un mec, deux mecs avec lui, généralement sur le front de la table. Comme c'était le cas en 2015 avec Suarez et Neymar, comme c'était le cas avec Suarez après, où il peut combiner et jouer au football. Je pense que cette complémentarité-là, il peut l'avoir avec Coutinho, j'ai l'impression qu'il l'a déjà avec Ansu Fati, je pense qu'il l'aura jamais avec Griezmann.
Moi je pense que dans le temps, vous verrez qu'Ansu Fati va être placé numéro 9. Si Griezmann ne brille pas, il mettra Ansu Fati numéro 9 et vous verrez
c'est
que...
C'est pas impossible.
Ansu Fati, justement, donc il y a un Fati, c'est pas Jacques, c'est Ansu, c'est bien au-dessus. Celle-là, bon, voilà.
Quand même.
17 ans, une pépite, deux buts encore hier, plus un pénalty provoqué. Petite anecdote, même si c'était peut-être déjà arrivé à d'autres. Il a été élu l'homme du match, mais on n'a pas pu lui remettre le trophée. Vous savez pourquoi?
Trop jeune.
Ouais, parce que le sponsor de l'homme du match, c'est une marque de bière, et qui a 18 ans, et qu'il ne les a pas encore, il ne peut pas avoir le trophée. Il en gagnera d'autres.
Il a toutes les prédispositions d'un grand talent. Il va vite, il est juste devant le but, on l'a vu. Dans ce qu'il fait, le fait d'avoir pied ouvert, pied fermé, vous avez toute la panoplie. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut être replacé numéro 9, c'est que dans le jeu du Barça.
Alors, est-ce que tu penses qu'il a la patience? Parce que tu sais,
quand t'es performant et que tu joues, t'as pas besoin d'être patient, tu joues.
On verra.
Après, il y aura forcément une irrégularité dans ses performances. Mais hier, il t'a montré des prédispositions d'un joueur de grand talent.
J'ai bien aimé ta comparaison avec Eto'o. C'est vraiment ça.
Visuellement, aujourd'hui, c'est un félin. C'est un félin. Il a cette panoplie. Rappelez-vous, Samuel avait vraiment ça. C'est-à-dire que devant le but, il avait ce relâchement, cette qualité d'ouvrir, de fermer le pied. Il avait toute une panoplie. Vous aviez des joueurs comme, par exemple, Thierry Henry, qui avait aussi cette qualité-là, qui était capable d'ouvrir, fermer le pied, qui avait cette, devant le but, qui avait cette justesse de trouver des angles. Ce que j'ai vu chez Ansu Fati depuis un moment, mais là, on l'a encore vu hier, c'est cette capacité en fait à avoir le bon choix devant le but. Ça peut aller en puissance, ça peut être fermé, et je trouve que ça peut l'amener à être un numéro 9. Il est jeune, il faudra être patient, comme les gens sont patients avec Mbappé sur cet aspect de numéro 9, mais ce sont des joueurs qui ont toutes les prédispositions pour devenir des grands talents comme avant-centre.
Et puis c'est pas un attaquant égoïste, c'est pas un type qui fait son numéro, qui se regarde jouer parce qu'il a les qualités pour le faire. Il joue collectif, tu l'as vu combiner, t'as vu toute sa relation avec Jordi Alba, ses déplacements, la manière dont il se replace quand ils ont perdu le ballon, dont il peut jouer avec Messi, dont il cherche Coutinho. Ça, si tu veux retrouver l'ADN du Barça, puisqu'a priori, c'est ce que le Barça veut, retrouver machin...
Une partie,
c'est toujours plus ou moins ce qui est dit. C'est intéressant, plutôt que d'avoir un œuf efficace qui met des buts, mais qui, à la rigueur, joue que pour sa tronche. Donc là-dessus, bon point pour Fatih.
Je vous propose d'écouter ce qu'en dit son entraîneur, Ronald Koeman.
Koeman.
Voilà, j'ai l'aval de M. Guémour. On l'écoute.
Je crois qu'Ansu Fati a fait une très bonne rencontre et pour cette raison, je suis très satisfait de son match et je lui ai dit directement quand j'ai effectué son remplacement. Je pense qu'il a donné beaucoup de profondeur à l'équipe et sa performance d'ensemble est parfaite. Il faut qu'il continue comme cela, qu'il travaille pour s'améliorer jour après jour. C'est un bon garçon, toujours ouvert à l'écoute et à l'amélioration. On est là pour lui donner un coup de main.
Bon, il a son entraîneur avec lui, en même temps, le contraire serait étonnant, il a inscrit un doublé, on l'a dit hier, provoqué un pénalty, il est la pépite du moment, amené à durer si tout va bien, et il est peut-être le joueur dont a besoin Lionel Messi, on en parlait juste avant.
C'est sûr que dans la relation qu'il a avec Messi, la manière dont il se complète, dont il se cherche, dont il se trouve surtout, je pense que par exemple ce qu'on a vu avec Ansu Fati sur le match d'hier, on l'a quasiment jamais vu ou très peu avec Griezmann sur plus d'un an. Ou même avec d'autres attaquants. Puis, faut pas oublier un truc, c'est que la Masia, ça fait quand même quelques années qu'ils en ont pas sorti un qui brille dans le temps. Et surtout qui brille dans le temps avec le Barça. Donc celui-là, il semble tirer la corde. Après, bon, une carrière, c'est long.
Surtout, Naïm, ce qui est très intéressant, c'est que Ansu Fati ne va pas marcher sur les plates-bandes de Messi. Ce que fait Griezmann. Parce que quand Griezmann décroche, il vient essayer de participer au petit jeu. C'est ce que veut faire Messi. Et en quelque sorte, Messi, il veut pas qu'on vienne dans son jardin. Ansu Fati, il a des particularités qui font qu'il pourra jouer avec Messi dans ce petit jeu. Mais ça va pas être celui qui va venir décrocher, essayer de trouver ses petits triangles de jeu. Il va être à la finalité de pas mal d'actions. Mais il a une bonne connexion avec lui. Et Messi, il est pas bête. Messi, s'il a accepté Suarez, au départ, quand Suarez arrive, c'est pas le grand ami de Messi. Ils ont créé cette amitié au fil du temps. Mais quand il arrive, c'est pas le meilleur ami de Messi. Ils ont créé cette relation technique.
C'est la relation
technique, footballistique qui a amené à cette grande amitié, en fait.
Ça s'assombrit pour Griezmann parce que...
Alors justement, je voulais en parler de Griezmann. Parce que forcément, il y a Griezmann. La saison dernière, sa première, on peut pas dire qu'elle laissera beaucoup de traces. Celle-là démarre pas franchement mieux. Il court, le Griezmann, mais personne lui donne le ballon. On l'a vu plusieurs fois, hier, un peu dépité. Il essaye. Il y a le retour de Dembélé, en plus. Bref, ça va vraiment pas dans son sens.
C'est pas lui, à mon avis, qui est le Dembélé, qui est le plus grand danger pour Griezmann, mais ce qui est terrible pour Griezmann, c'est que Messi est resté. C'est qu'Ansu Fati est bon. C'est que les entrants, notamment Trincao et
Dembélé, ça fait de la concurrence quand même devant.
Mais c'est pas le même registre à la rigueur, bon, tu dis, ils vont pas être en concurrence réellement, mais Messi est resté. Coutinho a été bon, Trincao a été bon, Ansu Fati a été bon, et en plus de ça, on va en parler après, l'autre il part à l'Atletico, il te colle deux buts, il te met une passe D. Donc en fait, c'est le cocu de l'histoire, Griezmann, dans l'équipe. C'est terrible, parce que moi j'adore, il a des qualités de footballeur merveilleuses. On a vu l'année dernière, on a dit c'est sa première année, il a du mal à s'entendre, et puis il y a le Covid, et puis ça va pas jouer en sa faveur. Ça repart mal. Là, les excuses et les circonstances atténuantes vont s'amenuir avec le temps, malheureusement.
Fallait pas rester, Habib?
Mais la problématique, c'est que je pense qu'il fallait pas venir déjà. Après, on va être très clair.
Donc,
fallait pas rester. Mais pour deux choses, quand on regarde aujourd'hui Griezmann en équipe de France, pourquoi depuis quelque temps son rendement en équipe de France est moins bon? C'est que tant qu'il est à l'attention du projet d'équipe, c'est un joueur qui est très très bon parce que comme on l'a dit, il a une qualité technique. C'est un joueur qui se montre, qu'on touche, qui va faire le jeu. Regardez, depuis qu'en équipe de France, vous avez un Kylian qui devient de plus en plus important
dans le jeu. C'est pas grave, ça.
Sauf qu'à un moment donné, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu dois être capable de te réinventer. Le Griezmann que je vois à Barcelone, c'est pas le Griezmann que j'ai vu à l'Atletico. Il est arrivé, et c'est un joueur qui retrottine. Qui regambade. C'est-à-dire qu'à l'Atletico, c'était un joueur qui mettait de l'intensité dans tout ce qu'il faisait.
Deux choses. La première, en équipe de France, Griezmann n'existe pas à titre individuel. Il est dans la constellation Pogba, Giroud, et Mbappé que je mets de côté. Ces joueurs-là sont vachement importants. Pogba derrière et Giroud devant.
Mais il était le centre du projet de jeu de Didier Deschamps. Ouais.
Pogba n'était pas souvent là ces temps-ci. Mais avant,
il était depuis Deschamps depuis le mondial 2014. Pour lui, c'était vraiment Griezmann. Ouais. Et après, on construisait autour de Griezmann.
C'est pas grave, il est encore performant, il marque des buts, il rate des pénalties, mais il fait encore partie du jeu et ça reste un des leaders offensifs de l'équipe de France. Maintenant, on revient sur le Barça. Le Barça, c'est là que c'est inquiétant, c'est que Koeman l'avait encouragé en lui disant tu joueras plus dans l'axe, alors soit en soutien de l'attaquant ou alors un peu en électron libre, et le problème c'est qu'il se retrouve carrément dans le côté droit.
Tu sais, le vrai souci, et je pense pas, Habib, t'as dû en connaître des joueurs comme ça dans ta carrière, on l'a déjà dit, c'est un vrai leader technique Griezmann, mais c'est pas un leader tout court.
Ouais.
C'est pas une grosse personnalité, c'est pas un gros caractère, je vais même aller plus loin. Ça devrait être, entre guillemets, un branleur. Il devrait être plus méchant. Il devrait être plus Eto'o, puisque tout à l'heure tu parlais d'Eto'o. Plus Anelka, plus Thierry Henry. Il devrait être plus hautain, plus dur, presque plus prétentieux.
Donc Griezmann, trop gentil.
Il est trop gentil, c'est un gentillet. Il a des qualités, c'est un leader technique. Mettez-le, quand Abby disait, dans le centre du projet de Deschamps. Rappelez-vous, avant l'arrivée de Griezmann, ça je dis depuis la Coupe du Monde 2014, Euro 2016 et le Mondial 2018, placé derrière l'attaquant, quand il touche le ballon, il est très très fort, il a des qualités, il court comme un 6, il marque comme un 9, il joue comme un 10, il est merveilleux, mais c'est pas une personnalité, c'est pas un caractère, t'es mené 2-0 à la mi-temps, c'est pas lui qui rentre dans les cercles, qui retourne à table. Rappelez-vous l'Atlético, il se fait siffler par son public, il pleure sur le terrain.
Et le problème, c'est qu'il n'a pas,
il n'a pas cette force de caractère pour s'imposer, pour outrepasser ses défaillances de footballeur et rentrer dans le circuit. Tu vois ce que je veux dire?
Ok pour Griezmann, un mot.
On est pessimiste, hein. Oh là là.
Non, on est juste. C'est normal.
On est juste.
Non,
on est juste.
Vous êtes observateur.
On est juste.
Koeman, premier match en Liga, premières impressions, rapides, chacun.
Je pense qu'il a voulu reverticaliser un petit peu le jeu du Barça. C'est-à-dire que quand on parlait de changer l'animation, modifier des choses, je crois qu'il est dans l'attente que cette équipe, il l'a observé, la possession en ce moment, dans le football d'aujourd'hui, ne peut pas fonctionner sur une grande compétition sur le long terme. Sur un match, vous pouvez priver l'adversaire de ballon, mais sur 38 matchs et sur une compétition comme la Ligue des Champions, on a bien vu, hein, les vainqueurs de la Ligue des Champions de ces dernières années, c'est des équipes qui verticalisent.
Très intéressant parce que beaucoup de vitesse dans le jeu et secteur offensif fourni. C'est plaisant.
Pareil, je pense qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait avec les Pays-Bas, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, Habib, une équipe plus verticale, pas trop dans la possession, on construit vite, on part du milieu de terrain, après on écarte sur les côtés, on cherche à faire des différences. Il y a un peu cette idée de jouer avec un faux neuf, parce que bon, sur le papier, Messi était numéro 9, mais bon, c'était pas lui. De la même façon qu'avec les Pays-Bas, c'était Memphis Depay qui était en 9, mais en fait... une piste de paille est plus comment dire électron libre. Je pense que pour l'instant il est toujours dans cette continuité. Et je pense aussi qu'il découvre son équipe et qu'il fait un tour, une revue d'effectifs le plus logiquement possible. La compétition vient juste de reprendre. On sort d'un désastre d'un 8-2.
Moi je pense qu'il a déjà fait sa revue d'effectifs et qu'il est déjà sur une idée très précise de ce qu'il veut faire. La preuve, Ansu Fati est titulaire.
Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, quand il fait rentrer tous les joueurs, enfin voilà, oui.
Non, mais il essaie tout le monde. Il fait un petit geste pour dire il faut aller vite, il s'arrête.
Mais il est discipliné.
Ah, il est discipliné.
Il est discipliné.
Ouais, c'est ça. Alors, il pourrait peut-être travailler avec Koeman. Un Barça à revoir, donc. On est d'accord avec
oui,
ça.
Mais à revoir, oui, revoir.
Il y a le FC Séville dans deux semaines.
L'Atlético, en revanche, semble vraiment lancé. Pourtant, ils n'ont joué qu'un match, mais voilà. Et Suarez, déjà bien intégré. Hein. Victoire 6-1 face à Grenade. Deux buts, une passe décisive pour le nouvel arrivant, lui, Suarez, en 20 minutes. Alors, c'est vrai, il est rentré en jeu, il y avait déjà 3-0. C'est peut-être plus simple, mais enfin, quand même. Il y a but aussi pour João Félix, pour Costa, pour Llorente. Ça roule pour les Colchoneros. On a l'impression, bing, ça y est,
c'est parti. Ce qui roule, c'est qu'il y a certains joueurs qui vont arriver à maturité cette année-là. Il y a João Félix. Il lui a fallu un an pour intégrer le travail de Simeone, de ce que lui demande Simeone. Il a fait un peu ce qu'il a fait avec Griezmann. Il l'a pris, il l'a mis sur le banc, il l'a rentré, il a dit « t'as du talent, mais il va falloir que tu travailles ». Aujourd'hui, on sent que, bah, même avec le Portugal, on l'a vu, ça travaille beaucoup plus. Et en plus, c'est demandeur en sélection, c'est un petit peu le même ce que demande Santos.
Voilà. Non, mais t'as vu au niveau du physique et l'attitude.
Au niveau du physique, il s'est étoffé. Ce qu'a dit Diego Costa, c'est assez juste. Il dit « maintenant, on a deux attaquants. Un qui frappe et un qui tape ». C'est-à-dire que lui qui est le et Suarez qui va frapper, qui va marquer
Costa
des buts.
Qui frappe les gens.
Pour l'instant Suarez est remplaçant.
C'est je pense que c'est temporaire.
Ouais, enfin, quand il rentre 20 minutes, il marque 2 buts, fait
rappelle-toi ce qu'on dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On attend un peu, il va être un peu sur le banc le temps d'arriver et derrière tu vas avoir une attaque avec lui et João Félix. Fort à parier que tu vas rapidement l'avoir. Est-ce qu'on est surpris de voir un marquer des buts et faire des passes décisives?
Non.
Il est talentueux, il connaît très bien la Liga, il a en plus le fait d'avoir des appointances avec la langue, avec la culture, avec l'entraîneur, avec une partie des joueurs. Et puis il est très très fort. Et on le sait très bien, Suarez, qu'il est très très fort. Mais vous verrez que d'ici peu, on dira que l'erreur, c'est que le Barça a laissé partir Suarez. Alors après, je dis pas qu'il va marquer 30-35 buts dans l'année, parce que Suarez, mine de rien, en plus de prendre de l'âge, il se blesse quand même un petit peu plus. Mais il a tout pour réussir équipe.
C'est un phénomène. Pourquoi ils l'ont fait partir du Barça?
Pour couper parce cette qu'il était relation trop proche de Messi.
Pour couper cette relation de vestiaire. Et cette chose prédominante de ces deux mecs qui devaient tout régir dans le vestiaire du Barça. Et en fin de compte, Koeman, en laissant partir Suarez, en quelque sorte, il fragilise ce côté omnipotent qu'avait un Messi. Il se dit, je le fragilise, Habib, même si Messi restera Messi.
Habib, tu sais très bien que l'un des principaux boulots des entraîneurs, c'est de préparer c'est de préparer les transitions. Et des fois, ce que disait Alex Ferguson, là, que je vais lire là, bientôt, ce qu'il disait, c'est que des fois, il faut devancer les choses.
Bien sûr.
Alors, attends. Donc, trop tôt, trop tard, Suarez, on verra bien. Mais de toute façon, Koeman, il arrive, il fait ses choix, et ça, il a décidé que...
Ah, moi, j'ai pas dit que c'était un mauvais choix. Je pense que c'est un très bon choix de laisser partir Suarez, et je pense que c'est un très très bon choix pour l'Atlético de prendre Suarez. Parce que, comme l'a dit Naïm, il y a vraiment ce côté entre Simeone et Suarez qui va fonctionner.
Il y en a qui comprennent pas ça, qui disent voilà, c'est un mauvais choix. Non, il faut préparer les transitions. Et des fois, les transitions, c'est les anticiper.
Mais nous, on vous a bien compris, shérif. Bien. Alors, plus sceptique, en revanche, on l'est pour le Real Madrid. Hein. On est tous d'accord avec ça, je pense. Pas convaincant il y a 8 jours à la Real Sociedad, nul 0-0. Pas plus samedi au Betis Séville. Le leader, hein, au passage, le Betis Séville, après 3 journées. Mais enfin, tout le monde n'a pas le même nombre de matchs. Cette victoire à l'arraché 3-2 doit plus au coup de pouce de la VAR qu'à la qualité de jeu.
Ramos marque beaucoup sur penalty dans les arrêts de jeu.
Moi, je trouve que Bartra, la main, est alliée.
Apparemment, ils sont plus nombreux à pas être d'accord avec lui.
Il tombe, il fait un geste du. Je trouve que.
Que la main y soit, après, c'est le caractère intentionnel peut-être qui est sujet.
Oui, après, je suis pas inquiet pour le Real parce que j'ai l'impression.
Il n'y a pas une histoire aussi de but contre son camp où Benzema est hors jeu au départ de l'action, où ça aurait pu aussi.
C'est titillé. Le VAR, c'est un peu partout. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre aussi. Donc,
moi, je ne fais que dire ce que l'aurait fait Madison.
Oui, non, mais bien sûr, je pense que le Real, l'année dernière, n'a pas été flamboyant. C'est une équipe qui gagnait très souvent 1-0.
Oui, mais enfin, ils ont terminé comme une balle. Oui, 10 victoires et un nul.
Il faut se rappeler ce qu'était le Real après le retour du Covid. À Benzema, absolument fantastique, que ce soit dans l'animation du jeu. Et puis Sergio Ramos. Qu'est-ce que vous voyez sur le match d'hier? Alors ok, il y a des actions, c'est plutôt pas mal, Valverde machin. Mais Benzema qui est encore quasiment dans tous les bons coups presque. Et puis Ramos qui marque sur penalty et qui en rate une terrible, qui est dans le jeu, qui aurait pu marquer
donc
un but.
Pour vous, la victoire d'hier ne doit rien à la vidéo arbitrage.
Ils ont eu un coup de pouce quand même.
Oui, il y a un coup de pouce. Après, si tu veux, il mérite pas de le perdre non plus.
Et Betis, c'est une belle équipe.
Mais après, le Real, on sait que ça va être comme l'année dernière et comme l'année d'avant.
Beaucoup de
buts sur coup de pied arrêté. Ils vont pas tout bien faire dans un match. Tout bien faire dans la saison. Mais ils ont tellement des joueurs de qualité et un esprit qui peut les transcender dans les moments difficiles.
C'est ça, l'esprit.
Que quand tu vas arriver dans les moments importants, que ce soit le Barça, l'Atlético ou en Ligue des Champions dans les matchs décisifs, ils seront là.
Quid Courtois. Je me répète à chaque fois. Quid Courtois. Je le trouve pas impérial.
Quid Varane. Moi, tu vois, j'ai pas trouvé Varane terrible hier.
Alors, je vais être d'accord avec tous les deux. Avec tous les deux. Mais bon,
donc, grosse interrogation sur le niveau de Courtois et le niveau de Varane.
Varane, je le trouve pas très bon depuis un moment. Mais après, c'est pas un mauvais match. Tu sais, c'est pas un mauvais match dans la totalité. C'est pas un mauvais match sur 90 minutes. Ouais. Mais si tu veux, c'est une erreur de placement qui amène un but. Ou une faute de marquage qui amène une frappe. Ou alors une grosse faute qui amène un coup de pied arrêté dangereux. C'est toujours la petite erreur qu'il faut pas qui met le reste de l'équipe en péril. Il en a une ou deux par match.
Est-ce que Varane, il peut être le patron de la défense du Real?
Il le saura jamais.
Non, tant qu'il y a Ramos.
On est d'accord. Voilà.
Zidane semble chercher encore la solution offensive. Hein. On a vu là Benzema et Jovic associés.
Ils
ont encore 8 jours pour le faire.
Oui, mais je pense que le Covid a affecté tous les grands clubs pour plein de raisons. Pour le fait de ne pas avoir ces matchs day, l'argent des tickets, les ventes de maillots parce que les supporters n'achètent pas de maillots.
Ça va plus loin.
C'est à peu près plus de 150 millions d'euros de pertes pour le Real, même s'ils ont beaucoup d'argent. Et puis surtout échaudés par leur dernier mercato. Ils ont fait venir Hazard, Jovic, Eder Militao. Et c'est des mini-flocs pour l'instant au Real. Je ne dis pas que ça ne peut pas devenir des très bons joueurs. Hein. Enfin, en tout cas, des très grands joueurs comme ils l'ont été par le passé. Mais ils se disent, vaut mieux pas recruter. On a un effectif de qualité et sûrement qu'il n'y a pas d'attaquant aujourd'hui du statut du Real pour à faire venir. Mbappé, c'est pas disponible maintenant. Et il vaut mieux garder l'argent pour dans un an.
Mais l'état d'esprit est là. À la limite, s'il marque toujours à la fin les fameux pénaltys dans les arrêts de jeu, c'est que l'esprit est encore là.
Après, shérif, ton projet de jeu ne peut pas reposer sur un pénalty de ton défenseur à la 95e. Saison, ça passe pas.
J'ai dit sur pour un l'instant, il y a ça. Après, si on regarde dans le détail, le milieu est en train de décliner. Le milieu n'est plus aussi souverain.
On disait la même chose il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont été très bons.
C'est pas le milieu. Ça veut dire quoi? Sur la deuxième partie de saison.
Sauf en Ligue des Champions. Mais c'est eux en partie qui te permettent aussi d'être champion d'Espagne. C'est pas que Benzema, que Ramos. T'as aussi Modric, il a été très bon. Kroos, il a été très bon.
Tu sais très bien que la deuxième partie, c'est pas une vraie partie de championnat. Je suis désolé.
Alors il faut retirer le titre de champion Real alors.
Non, mais je dis pas ça. C'est une saison particulière à tous les niveaux.
Oui, ça c'est clair. Non, mais attends, après, on retiendra les titres et qui les a gagnés.
Moi, je reste sur ce qu'a fait Liverpool. Et je pense que le Real fait la même chose cette saison. C'est que Liverpool avait décidé, après leur victoire en Ligue des Champions, de ne pas recruter. Mine de rien, ils sont champions d'Angleterre derrière. C'est que recruter pour recruter, ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé des millions et des millions pour des joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter au Real. Donc, ils se disent, qui est sur le marché aujourd'hui ? Les grands clubs ne vont pas avoir leur grande star. Pas maintenant, en tout cas.
À ceci près que Liverpool s'est pas trompé sur le recrutement depuis un moment. Alors que le Real, tu l'as souligné toi-même, il y a pas mal de joueurs qui sont soit mauvais, soit pas à leur niveau.
Mais tu peux avoir hasard comme recrut du Real.
C'est quand même Détroit, Atlético, Barcelone et le Real, le plus poussif, on va dire, en ce début d'exercice 2020-2021.
On regarde la manière dont ils démarrent généralement les saisons avec Zidane, ils ont toujours à un moment donné, jusqu'à peu près mi-octobre comme ça, où ils sont poussifs physiquement. C'est après qu'ils commencent à enquiller les matchs. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que cette saison, la Ligue des Champions, elle est plus tard. Et donc, il va falloir préparer les joueurs autrement, parce que sinon, ils vont être trop vite, trop court physiquement. Donc peut-être qu'ils ont encore un peu de mal à digérer tout ce qu'ils ont pris pendant la préparation et que sur les semaines à venir, ça va aller mieux. C'est souvent ça d'ailleurs le Real avec Zidane. Hein. C'est immonde, il y a une montée en puissance physique arrivée au mois d'avril.
Tu ne peux pas oublier que les confrontations directes ont joué un rôle important dans le gain du championnat. Ouais. Et Zidane, sur cet aspect-là, est quand même assez bon depuis maintenant quelques années.
Allez, c'est le mot de la fin pour la Liga. Après la Liga, la Ligue 1.
Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la Ligue 1.
C'est vrai. Qui a dit ça? Qui? Ah, c'est Cazard, d'accord. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la Ligue 1. J'avais pas entendu, c'est très très juste. Il faudra qu'on le cite plus souvent, ce Cazard. La Ligue 1, donc, et cet Olympico qui arrive dimanche. On se régale toujours, hein, on a les affiches qu'on peut en même temps. Hein, on a vu ce que donnait PSG Marseille. Là, on a donc Lyon Marseille. Ouais. Et comment dire, c'est donc censé être une affiche de notre championnat. Et vu ce qu'on a vu ce week-end de ces deux équipes, on a raison de penser ce qu'on pense. Ouais. Si ça continue, on va s'ennuyer ferme, hein, Habib.
Bah, si ça continue, surtout si les deux entraîneurs ne mettent pas en place autre chose au sein de leur équipe, je pense qu'ils ont tous les deux été un petit peu enfermés dans leur choix d'avant. Je pense à Rudy Garcia avec ce système à 5 où il démarre encore à 5 sur ce match-là. Alors il a modifié le système et ça a été un petit peu mis en deuxième, mais c'est un système qui a fonctionné en configuration Ligue des Champions sur un bloc bas où Lyon pouvait contrer et où le profil des joueurs qui étaient dans cette équipe correspondait exactement à ce système-là. C'est-à-dire que Cornet, il vaut mieux qu'il ait 40 mètres devant lui que sur un bloc bas de l'adversaire. Lui, en situation de bloc haut, sur une attaque placée, c'est un joueur qui vous apporte beaucoup moins.
Il a fait le pareil en L1.
Et la problématique qu'on a, c'est qu'on a des joueurs au milieu de terrain comme Aouar et Guimaraes qui sont des joueurs de ballon, qui sont des joueurs de petites passes, qui sont pas des joueurs qui perforent balle au pied. Aouar peut le faire, mais sauf qu'il est aussi dans une situation où il se retrouve face à une équipe qui a complètement serré l'intérieur du jeu et où les seules solutions qu'il a sont Cornet à gauche et Dubois à droite. Heureusement que Dubois fait un exploit personnel pour ramener Lyon dans le match, mais c'est trop insuffisant pour espérer avoir un Lyon, par exemple comme Genesio qui était un Lyon de déséquilibre, où on pouvait critiquer le fait qu'il prenait deux buts mais ils en mettaient trois. Pour l'instant, le spectacle à Lyon, on l'attend.
Alors,
et
on va
pareil
revenir
du côté de Marseille.
Eh ben voilà, c'était la transition. J'aimerais qu'on parle de l'OM d'abord. Ils ont joué en premier, c'était samedi face à Metz, 1-1. Alors là, pour le coup, on peut vraiment parler d'un nul très heureux. On rappelle l'égalisation de Sanson à la 95e minute. On écoute Morgan Sanson justement et on cause après.
Ça a été compliqué. On a eu l'impression que la première mi-temps, on arrivait quand même à la gérer. Mais après, en deuxième mi-temps, après le but, on ne sait pas ce qu'on fait, on dort un peu. Ça faisait 5-10 minutes qu'on n'avait pas les deuxième ballon. Et voilà, on prend un centre et encore un but. Donc on a de la chance, on arrive à égaliser, mais ouais, c'était compliqué.
2 points sur 9 à domicile. C'est quand même famélique. C'est un peu comme si la...
Public, ça.
La victoire à Paris était trop lourde à porter.
La victoire à Paris est une victoire en trompe-l'œil. C'est Paris qui a perdu plus que Marseille qui a gagné. Ce qui ne retire rien à ce qu'a fait Marseille, la manière dont ils ont abordé le match. Humainement, mentalement, ils ont fait dégoupiller très bien. Mais dans le jeu, rappelez-vous le match, on l'a fait en direct avec Cédric de Oliveira, Hugo Moissonnier.
Ah, ils étaient là aussi ?
Ouais, vous avez 4 parades. Ils ont joué en plus. Vous avez 4 parades de Mandanda. Vous avez 4 miracles de Mandanda. Vous avez un pénalty qui aurait pu être sifflé qui l'a pas été. Donc, il faut pas oublier ça. C'est que Marseille, on pourra dire ce qu'on veut, mais comme les années précédentes, il n'y a rien à dire sur l'état d'esprit. Vous savez qu'ils vont courir, qu'ils sont motivés, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais c'est limité en nombre et en qualité. Et quand vous êtes limité en nombre et en qualité, vous ne pouvez pas faire une grande saison. C'est pas possible.
Et quand vous avez Payet et Thauvin aux fraises au même moment, parce qu'on peut vraiment dire que là, ils sont fraises, on aurait presque... D'ailleurs, on va dire à Payet, écris moins, tweet moins, abandonne les réseaux sociaux, fais-moi le malin et fais ton métier.
Non, mais déjà, à la base, il n'y a pas le physique. Moi, j'ai jamais vu Marseille depuis le début de la saison mettre un vrai temps fort. Un vrai temps fort, c'est-à-dire
on occupe le terrain adverse, la moitié adverse, et on reste dans la moitié adverse, on se procure des occasions nombreuses. Non, non, un petit peu contre Saint-Etienne en deuxième mi-temps. Là, les mecs, ils devaient égaliser, parce qu'ils étaient menés à 1-0. Mais c'est tout.
Mais ils ont, moi, c'est là où ils l'ont eu, c'est contre Paris, ils ont eu ce temps fort défensif. C'est-à-dire
oui, d'accord.
Temps fort dans le volume de course, dans l'engagement. Oui. Mais là où je rejoins Naïm, c'est que c'est une victoire en trompe-l'œil. Moi, je pense pas que c'est Paris qui l'a perdu. Marseille a été le chercher malgré tout avec ses tripes. Mais par contre, tu ne peux pas construire le reste, ce qui suit après Paris, de la même façon. C'est-à-dire que tu dois décontextualiser cette victoire et ton contenu de ce que tu vas devoir produire contre Saint-Etienne, contre Lille, parce que le problème que tu as, c'est que par exemple contre Metz, tu as une équipe qui accepte ou qui subit cette domination et tu dois faire le jeu. Et la problématique que tu as, c'est que j'ai regardé par exemple les milieux de terrain de Marseille sur ce match-là. Camara, il est cuit physiquement en ce moment, tu sens qu'il est moins bien. Et Rongier et Sanson ont un rôle un peu restreint. Ça veut dire qu'avant, rappelez-vous, quand on a vu les beaux moments de Marseille sous Villas-Boas l'année dernière, c'est que vous aviez ces deux joueurs-là, Morgan Sanson et Valentin Rongier, qui allaient très très haut pressés. Et rappelez-vous, vous aviez que Payet, vous n'aviez pas Thauvin. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est que vous avez deux joueurs qui cristallisent l'attention de leurs partenaires, mais qui ne sont pas connectés. Qui jouent pas ensemble.
Mais, et puis qui ne jouent pas tout court, là. C'est quand même calamiteux de les voir jouer l'un et l'autre. Payet, il est meilleur hors du terrain, enfin meilleur pour ceux qui...
Mais Payet, il réclame. Payet ne réclame pas le ballon. Des fois, il va s'excentrer complètement. Où il est intéressant, c'est quand il commence à revenir dans l'axe, il demande le ballon. Là, il se passe quelque chose. Mais la plupart du temps, il va s'isoler sur le côté gauche. Les latéraux, ils montent plus. Il vient d'où le danger? Moi, je parle de temps fort. Un temps fort, ça veut dire que quand t'as l'équipe qui est au taquet, tu le dis toi-même, Camara, il est cramé, mais il n'y a pas que lui qui est cramé.
Donc, c'est un problème de qualité.
C'est qualité de physique à la base aussi.
C'est un problème de qualité.
Vous m'expliquez qu'ils sont donc cramés. Ils ont repris le jeu le 23 août. Après combien?
Mais ils ont tout donné contre Paris.
Et la Ligue des Champions approche. On rappelle que cette équipe sera en Ligue des Champions dans, tiens, j'en sors jeudi. Là aussi, on vous le rappelle, hein, avec, à suivre. Ça se passera pendant l'émission, juste au début de l'émission. Jeudi, ce sera même Hugo Moissonnier, autant vous le dire, qui sera aux commandes. Le premier match, c'est trois semaines après.
Oui, mais c'est un travail considérable. Ce qui est problématique, c'est qu'il va devoir s'adapter. C'est-à-dire qu'il est encore dans l'attente de se dire, Thauvin va faire le travail, Payet va faire le travail. Et aujourd'hui, on tape sur Benedetto, par exemple. Et moi, j'ai observé Benedetto contre Metz. Il est valeureux, il court,
non, je suis d'accord.
Il touche des ballons. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas connecté à ses partenaires. Et c'est un joueur qui doit absolument être connecté à ses partenaires pour être efficace. On a fait la même chose
avec Valère Germain. Il y a un autre problème avec Benedetto, c'est qu'il ne cadre pas ses frappes.
Oui,
que tu peux le connecter avec tous les joueurs du monde s'il y a zéro efficacité devant les buts.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde quand même cette équipe, elle est vachement axée sur cet exploit individuel que pourrait avoir Thauvin ou le pied de Payet sur un coup de pied. Si ton projet de jeu tourne autour de ça, tu vas rencontrer des problèmes face à des équipes qui, surtout quand physiquement, t'es moins bien.
Enfin, heureusement, Luis Enrique arrive.
Non, heureusement d'abord qu'il y a Mandanda qui les sauve.
À la rigueur, Luis Enrique, évidemment, pourra avoir toutes les interrogations du monde sur lui, mais à la rigueur, le fait qu'il puisse, lui, jouer sur un côté, sur le côté gauche, justement, sur le côté de Payet, ça peut-être soit mettre Payet sur le banc définitivement, soit donner à Payet le petit surplus pour essayer de retrouver son niveau, pour essayer d'être plus percutant dans le jeu. Parce qu'effectivement, si tu fais... Moi, Coupe d'Europe, a priori, ça devrait s'arrêter rapidement au mois de décembre. Mais si tu fais toute une saison avec un Payet à ce niveau, tu vas jouer à 10 et tu vas être en grande difficulté.
3-4 minutes pour parler de l'adversaire, donc, de Marseille dimanche. L'Olympique Lyonnais, on a Lorient hier, mais pas grand-chose à retenir de bon. Un mois après la demi en Ligue des Champions, ça ressemble à une déconfiture totale. On écoute Rudy Garcia, on en parle après.
Ouais, on a manqué la première période parce que je pense que j'ai pas aligné la bonne équipe ni le bon système. On avait trop de joueurs qui viennent au ballon et pas grand monde pour aider Moussa Dembélé devant. Donc c'est logique qu'on ait fait 0-0 à la pause et faire un partout ici avec ce contenu là, c'est pas admissible. Donc on peut être irrité et pas content. Donc jusqu'à l'heure le contenu était bon. Aujourd'hui il y a eu qu'une mi-temps et encore cette mi-temps là elle aurait pu être bien meilleure.
Enfin, il dit un peu tout et son contraire.
Mais enfin, il reconnaît. Il a très rarement reconnu ses erreurs quand même. Il reconnaît son erreur de départ dans le système et dans l'animation et dans le choix aussi de certains joueurs. Après, le problématique de Lyon, c'est qu'ils ont été préparés pour être performants pendant la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'en gros, vous avez dû recréer une forme de mini préparation pour réattaquer la Ligue 1. C'est un peu le cas de Paris. Et c'est pour ça que ces équipes-là, il faut être indulgent avec eux sur l'aspect physique parce que on l'a dit, le point culminant de Lyon, c'était d'être prêt pour les quarts de finale, demi-finale et éventuellement ce qui se passait après.
Après, vous avez aussi le problème, c'est que vous avez Dembélé, Aouar, Depay sous un éventuel départ.
C'est exactement ça. Oui.
Fin donc, du mercato, donc, on le rappelle, lundi soir prochain.
Si vous êtes aujourd'hui Dembélé et que vous n'êtes pas dans la certitude d'avoir un poste de titulaire, c'est son cas, il est souvent mis sur le banc. Lui, il se dit, attends, si pendant mes 20 minutes je me blesse, ça veut dire que je dis adieu à mon éventuel transfert et je risque de passer mon temps sur le banc à Lyon. Aouar, il se dit, moi, je veux absolument partir. Il sait que les offres vont être refusées parce qu'elles ne sont pas assez importantes. Pareil, il se dit, je ne veux pas non plus tout. Donc, en fait, ils sont perturbés. Et c'est tout à fait logique que cette équipe ne soit pas à plein régime parce qu'il y a des joueurs qui sont perturbés par leur avenir. Et l'avenir, c'est jusqu'au 4 octobre.
Chérif, on avait d'ailleurs un autre extrait de Rudy Garcia. J'allais dire Rudy Garcia, ce n'est pas tout à fait le même genre. Rudy Garcia qui disait, j'espère vraiment qu'on sera fixé avant le match de dimanche contre Marseille parce que lui aussi sent bien ses joueurs perturbés. Aouar, Depay et Dembélé, hein,
d'accord, on rappelle. Ça, c'est le contexte actuel. Mais quand on élargit le débat, en fait, ça fait plus d'un an, une saison que Lyon ne joue plus bien, n'a plus d'identité de jeu, n'a pas de fond de jeu. Alors évidemment, il y a Aouar, évidemment, il y a Guimaraes qui a fait un super début, il y a Dubois qui est en train de se révéler, il y a Cacré, d'accord. Mais on reconnaît plus Lyon dans la façon dont ils posaient leur jeu, dans la façon dont ils faisaient reculer l'adversaire, dans la façon dont ils arrivaient à s'imposer. Le mauvais classement qu'ils ont cette saison, c'est pas un hasard.
T'as deux réponses à ça, Chérif. La première, c'est que sur les 5 dernières années, t'as eu combien d'entraîneurs? T'as jamais le même entraîneur, t'as jamais le même staff, t'as jamais la même politique, 4. T'as jamais la même philosophie, t'as jamais le même système. Deuxièmement, au niveau du recrutement, ce qui a été la grande force de Lyon, du grand Lyon, c'était qu'à une époque, je vais pas dire qu'ils faisaient carton plein sur le recrutement, mais ils se trompaient rarement. Regarde aujourd'hui le nombre de joueurs qui arrivent dans cette équipe, qui au final jouent pas ou très peu parce qu'ils sont pas au niveau. Tu as énormément de flops, à tel point qu'aujourd'hui, à une époque, t'avais tes recrutements et puis tes jeunes venaient en renfort, s'imposaient pas, mais venaient en renfort. Aujourd'hui, ta solution à Lyon, depuis 2 ans, 3 ans, c'est tes jeunes. Et à chaque fois que tu termines une saison, la première question que t'as, c'est oui, qui tu vas recruter, où est-ce qu'il faut recruter, c'est surtout quel jeune tu vas pouvoir faire monter rapidement en équipe première, parce qu'à tel poste, t'as telle lacune et que t'as pas de pognon pour aller chercher un mec.
Regarde, la génération, on en a parlé tout à l'heure, la génération UEFA qui joue contre la Juventus, c'est la nouvelle génération, tu sais, des Tolisso, des Fekir, tu vois ce que je veux dire. Il y avait déjà un fond de jeu. Ça, c'était, tu vois, au niveau des, comment ça s'appelle, au niveau des transferts, des venues, des arrivées.
C'était il y a combien de temps? Il y a 3-4 ans.
Mais c'est ça que je te dis, c'est cette idée-là, c'est que même avec des joueurs qui venaient du centre de formation, il y avait encore un fond de jeu.
Qu'est-ce que je viens de te dire? Je te dis, depuis 3-4 ans, tu as eu combien d'entraîneurs?
Et il y a mon petit doigt me dit,
c'était Genesio, Genesio, les connaissait depuis qu'ils avaient 12 piges.
Encore.
Il y a plus de jeu.
Stop. Rendez-vous dimanche pour cet Olympico ou pas.
5-5
si a... Ouais, 5, ça se trouve,
oui. Et puis en même temps, s'il y a un bon film sur notre chaîne, bon, on n'est pas obligé.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Aus für Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung!
Colossal Football, c'est la Bundesliga et bing, dans sa face le Bayern, 3 jours après sa victoire en Super Coupe d'Europe en prolongation face au FC Séville, 3 jours avant de retrouver Dortmund en Supercoupe d'Allemagne cette fois, les Bavarois sont apparus fatigués hier à Hoffenheim. Le leader, du coup, Hoffenheim, là encore, c'est toujours surprenant, mais ce sont des débuts de saison. Défaite 4-1, la première en 2020, la première après 26 matchs sans défaite. On écoute l'avis d'Hansi Flick et on en parle quelques minutes après.
Il y a plusieurs raisons pour expliquer cette défaite, mais tout d'abord, on est plutôt bien rentré dans la rencontre et je n'ai rien à reprocher à mon équipe du point de vue de l'engagement et de la volonté. On a joué 120 minutes en Supercoupe jeudi dernier. Et pourtant, on a pu voir la façon dont Joshua Kimmich ou Thomas Müller ont essayé plusieurs fois de renverser le cours de la rencontre et c'était top. On a laissé trop d'occasions de marquer à Hoffenheim alors que notre attaque n'avait pas le rendement habituel. Cependant, on va faire une croix sur la défaite et on va se concentrer sur ce qu'on peut améliorer pour la prochaine rencontre, mercredi, le match de Supercoupe contre Dortmund.
Hansi Flick, donc l'entraîneur du Bayern Munich, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter? Ça devait bien arriver, une défaite. C'est l'ampleur peut-être qui,
Qui surprend. Pas de Lewandowski devant, je pense que ça joue aussi.
Pas de Goretzka au milieu.
Ça joue beaucoup dans les
possibilités. Mais tu sais...
Fallait faire souffler, on est entre deux trophées potentiels.
Là où je... Alors c'est vrai qu'il manque Lewandowski, c'est vrai qu'il manque Goretzka. A contrario, quand le Bayern gagne et écrase tout le monde, on peut pas créditer uniquement Goretzka et Lewandowski de ces succès-là. Donc on peut pas imputer la défaite uniquement par leur absence. Mais il y a quand même quelque chose de plus constant et de plus inquiétant pour le Bayern, même si je suis d'accord, c'est un incident, il n'y a pas de souci. C'est que tous les buts viennent de toutes les erreurs possibles que l'on voit derrière. Si vous prenez toutes les actions qui ont conduit au but d'Offenheim, vous avez les 20 premières minutes du match contre Lyon. C'est-à-dire, on allonge le jeu entre Davis et Boateng parce qu'on sait qu'il y en a un qui a 40 mètres dans son dos et l'autre qui a une charrette pas possible. Des erreurs de placement, Pavard qui a été assez ridicule sur au moins deux des quatre buts. Et en fait, Offenheim a accentué les quelques défauts, mais qui sont des défauts majeurs du Bayern, c'est les errements défensifs. Parce que tu sais que quand ils ont le pied sur le ballon, ils sont très forts, qu'ils ont un milieu de terrain fourni, fort techniquement, fort dans l'impact, qu'ils ont deux flèches sur les côtés, même trois parce que Coman est sur le banc, et Sané avec Gnabry, tu sais que Lewandowski va mettre des buts. Le petit souci, c'est derrière les espaces que t'as dans le dos de Davis et la lenteur de la charnière, Zoule, Boateng, même si Zoule jouait pas hier. Et en fait, Offenheim a bien appuyé là-dessus, ouais, par petites touches, et au final, 4-1, oui, le score est d'ampleur, effectivement, ça paraît important, mais quand on dit oui, c'est un incident, et bien sûr, le Bayern est très fort, ils vont retrouver le haut de niveau, ils vont retrouver le haut de tableau.
Ils sortaient 23 victoires de rang.
Oui, hein, oui, 23 victoires de rang, mais si tu veux, ces errements défensifs-là qu'on pointe et qui ont servi à Offenheim, tu peux les retrouver sur les matchs qui suivent.
Tout à fait. Non, mais je vais compléter ce que dit Naïm, je suis entièrement d'accord.
Ça tombe bien.
Ce qui fait la force et la beauté de ce Bayern, c'est que le Bayern prend le risque du déséquilibre avec un bloc haut, avec, carrément Neuer en libéraux. C'est lui des fois
c'est même pas une histoire de bloc haut, parce que si tu prends Boateng, oui, il joue pas très haut, Boateng.
Oui,
Boateng, il joue plus très haut. Mais le truc, c'est qu'il est lent. Il est très lent.
Zoule est lent, Boateng est lent.
Et Davis à 40 mètres dans le dos.
On est d'accord. Tu vois, l'espace qu'il laisse entre le gardien et le bloc, en gros. Là-dessus, on est d'accord. C'est ce qui fait leur force aussi. Ils prennent le risque du déséquilibre avec un bloc, enfin, je veux dire, une densité dans le camp adverse qui fait qu'ils vont laisser des trous derrière avec Neuer pratiquement en rôle de libéro. Et alors, ce qui est marrant, c'est le quatrième but qu'ils prennent. Tu vois, comment dirais-je, il y a la sortie de Neuer, il a hésité un quart de seconde et il a un mètre de retard. Mais sinon, le ballon, il l'avait, donc il provoque la faute et il y a pénalty. Mais ils prennent le risque du déséquilibre, c'est ça qui fait la force et la beauté
de Est-ce que tu peux me dire, comment est-ce qu'il provoque le pénalty? Comment est-ce qu'il est amené à se retrouver en face à face avec l'attaquant?
Mais ça arrive souvent,
parce que tu as deux défenseurs et pas quatre derrière. Ouais. Parce que t'en as un qui est dos au jeu, et que le dernier défenseur se fait éliminer par un crochet d'enfant.
Ouais, on est d'accord.
Et que t'es le Bayern, t'es champion d'Europe.
Mais la force du Bayern, c'est que quand on regarde ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ils avaient ces déséquilibres. Et on les a vus
contre Lyon, contre Paris. Voilà.
On l'a même vu par le Barça. Rappelez-vous, le Barça peut mener 2-1 dans ce match, par exemple. C'est qu'ils sont capables de mettre une telle intensité. C'est que quand les situations offensives arrivent pour l'adversaire, ils sont souvent dans une situation un peu de... Ils ont besoin de souffler. C'est-à-dire qu'il y a un manque de lucidité. Mais c'est vrai que ces erreurs, elles existent depuis un moment. Bayern Munich, il a décidé de se déséquilibrer, comme beaucoup d'équipes le font. Sauf que, par exemple, Liverpool est très souvent déséquilibré, mais vous avez Van Dijk et Joe Gomez qui vont très très vite derrière. C'est vrai que c'est une charnière qui est lente et que parfois, ils auront ce manque de réussite, peut-être, qu'ils ont eu en Ligue des Champions, de voir les adversaires ne pas transformer les occasions qu'ils ont eues. Là, Offenheim a été très précis, en tout cas, dans ce qu'ils ont eu à jouer sur leur situation offensive. Donc, c'est pour ça que je dis accident, mais accident qui peut se répéter parce qu'ils auront peut-être moins d'intensité dans certains matchs et que ce manque d'intensité va faire que les joueurs adverses auront un petit peu plus de fraîcheur et seront capables de convertir ces occasions.
Oui, ils payent aussi. Encore une fois, il y a forcément, vous êtes champion d'Europe. Fin août, il y a un petit décrochage. Vous vous remobilisez pour la reprise du championnat.
8-0 contre Schalke.
8-0. Derrière, vous allez chercher le titre de Supercoupe d'Europe. Vous en avez encore un qui arrive mercredi. Le scénario est planté pour que ça se termine comme ça.
Après, ils ont manqué d'efficacité. On sait très bien que le Bayern, quand ils prennent leur équipe à la gorge, vous avez vu toutes les occasions qu'ils ont contre le FC Séville, s'ils en mettent la moitié. Je crois que c'est plié avant la 90e minute.
Ouais, mais regarde la première mi-temps de face au Paris Saint-Germain. Pour moi, ils doivent en prendre deux, voire peut-être trois.
On est bien d'accord.
Et si Neuer a été élu homme du match, c'est pas pour rien. On revient à cette finale de Ligue des Champions. Ils ont eu chaud en première période.
On va surveiller le Bayern, bien sûr. On va vous dire merci, messieurs. Il est temps de rentrer chez vous. Vous êtes gentils, mais on vous héberge pas plus. C'est gentil. Demain, on sera toujours avec Alice Ménard et on sera avec Sarah Loubacouche. On va passer une bonne journée, en tout cas, en ce qui me concerne. Nous parlerons Ligue 1, Icardi de retour et les buteurs africains. Nous parlerons de foot italien et de foot anglais, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ceux qui nous écoutent et les rageux des réseaux sociaux.
Bonjour.